mode d'emploi.
Et oui, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires d'AC ce soir. Nous parlerons donc. Je suis avec Ludo, pardon.
Bonsoir.
Bonsoir Ludo, bonsoir Christophe.
Bonsoir à tous et à toutes.
Gilles au micro également, ainsi que Claude à la technique, comme d'habitude. Nous parlerons dans cette émission des chiffres du chômage, des 62 milliards donnés aux patrons par l'intermédiaire du CICE depuis 2013. Pour la création de 108 000 emplois seulement en 3 ans. De la réforme de l'UNEDIC, mais avant tout, donnons la parole à M. Mélenchon dans la manif du 23 septembre. Attention, nous ne sommes pas mélenchonistes, mais cette grande gueule dit quand même quelques vérités.
Salut à la CGT, aux syndicats solidaires, à la FSU, à la CNT, et à tous ceux qui se sont rassemblés ces jours derniers et se préparent à le faire de nouveau, avec bien sûr une pensée émue pour la CGT qui fête aujourd'hui même l'anniversaire de sa naissance en 1895. Oui, bien sûr, nous sommes engagés dans un bras de fer social. Mais il s'agit de davantage encore. Ce qui est en cause dans l'affaire des ordonnances, ça n'est pas seulement le régime détestable des ordonnances. Ce n'est pas seulement le contenu antisocial qu'elles portent en elles. C'est l'incroyable subversion de l'ordre public social républicain qu'elles contiennent. Nous sommes ici au pied de la République en défense de la République. Car la République en France est nourrie, alimentée et en quelque sorte toute faite d'intentions sociales. En République française, au-dessus de tout, il y a la loi, car la loi est la même pour tout le monde et elle s'applique de la même manière à tout le monde. La loi. Et bien sûr, on a toujours pu négocier dans les branches et comme ils le disent sans arrêt, au plus près du terrain, il a toujours été possible de négocier dans les entreprises des arrangements qui n'étaient pas prévus par la loi. Mais il y avait une condition, c'est que ces arrangements ne pouvaient qu'être plus favorables que la loi. C'est le principe de faveur. L'ordre social républicain dit que la loi est fixée par les citoyens et que les corporations sont d'un niveau inférieur pour déterminer la norme. Les ordonnances prévoient que dorénavant, c'est dans les entreprises que se discuteraient les questions essentielles de la vie au travail, sans qu'aucun salarié ne puisse plus rien contre une décision qui modifierait de fond en comble son contrat de travail. Le contrat de travail ne serait plus une protection, ce serait une sorte de chiffon de papier qu'à tout moment on peut remettre en cause dans tous ses aspects. Voilà ce que signifie de donner le pouvoir normatif dans l'entreprise. Et cela pousse à un dumping social terrifiant, car les patrons qui veulent garder les bons ouvriers, les bonnes ouvrières, et qui décident de les payer correctement, conformément à la richesse qu'ils produisent, car seul le travail humain produit de la richesse. Le capital ne produit rien. Eh bien, ces gens se trouveraient alors explosés entre mille et un droits différents. Et des fois, on nous dit, mais l'accord de branche s'impose parfois. Mais nous ne nous en soucions pas. Nous voulons que la loi s'impose d'abord. Et ensuite, mes chers amis, je sais que ces questions sont techniques, mais il nous faut tous les apprendre. Ces questions sont techniques, mais elles ont un fond qui peut changer toute notre vie. Voilà pourquoi il faut étudier avec soin ce qui se passe. C'est un coup d'État social par la méthode de la brutalité. On a demandé aux parlementaires d'annuler un code du travail sous prétexte qu'il était trop important et nous n'avons pu discuter une seule ligne, un seul adjectif, une seule virgule sur des milliers de pages qui concernent votre vie quotidienne. Et là où vous aviez une loi, vous aurez dorénavant 700 lois suivant les branches et des milliers de lois différentes suivant les entreprises. Ceux qui voudraient bien payer leurs ouvriers se verraient bientôt mis en concurrence avec ceux qui voudraient les payer moins bien. Et voilà comment l'ordonnance Macron provoque le dumping social et pousse à bout toutes les relations sociales vers le conflit. Voilà ce qu'ils ont organisé et planifié. C'est nous, la force déterminée et tranquille, qui portons la paix dans les relations sociales, là où ils allument la guerre et la vindicte. La pagaille, le chaos de ces gens qui rêvent d'un monde dont ils pensent qu'il serait infiniment plus dynamique s'il n'y avait aucune règle qui vienne perturber leur étrange métaphysique des mouvements spontanés du marché, de la main invisible et je ne sais quoi. Toutes ces fadaises qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais produit rien d'autre que de la brutalité, de la pauvreté, de la misère, de la souffrance et des vies pourries. Ces gens détruisent tout ce que nous avons construit, nous, nos pères, nos mères, nos grands-mères et nos grands-pères. Regardez l'hôpital public qui était réputé comme le meilleur du monde, comment ils l'ont désorganisé. Regardez l'école où avec 317 000 élèves de plus, ils ont réussi à fermer 4000 collèges, lycées et écoles, privant la France et nos enfants de la principale richesse dont nous disposons, notre cerveau, notre intelligence, notre savoir, qui est la principale richesse de ce pays. Nous commençons à connaître les premières générations d'enfants abandonnés et déscolarisés du fait de ce saccage de l'éducation nationale qui est notre bien le plus précieux dans la patrie à travers le temps. Regardez, regardez comment ils sont en train de saccager le logement social, non seulement avec cette histoire d'APL qui retire aux gens qui ont le moins, car les trois quarts de ceux qui vont voir cet APL diminuer appartiennent à la proportion la plus pauvre de la population et appartiennent à la population jeune et féminine qui tout le temps subit le pire chaque fois qu'il y a une régression sociale.
Oui, voilà, donc je voulais juste apporter une petite précision. Nous avons décidé de passer Mélenchon parce que en fait, dans les autres médias nationaux, et voilà, il n'est passé que 2 minutes. Et je considère que son discours, même si on n'est pas d'accord avec lui, d'ailleurs je ne suis pas toujours d'accord avec lui, il est quand même représentatif d'une certaine gauche, et voilà, donc il est important pour moi ou pour nous de le passer un peu plus longtemps parce qu'il a quand même dit quelque chose, des choses dans ce discours qui étaient quand même assez intéressantes et véritables. Donc, pour le coup, tu voulais ajouter juste deux mots sur...
Oui, alors, pour, je vais enchaîner. Alors, c'est des émissions radiophoniques qui s'adressent en particulier à Angèle, qui, j'espère, avec sa copine, nous écoute. Mais pour revenir à ça, quand il parle de coup d'État social, je vais rebondir sur un de nos premiers sujets, hein. Et puis on en parlera
tout à l'heure si tu veux bien du premier sujet, parce que là on part sur les chiffres du chômage. Je crois que à mon avis c'est comme ça que j'avais prévu l'émission.
Okay.
Donc excuse-moi Christophe, mais on va mettre sur les chiffres du chômage. Alors il paraît Ludo, il paraît que il y a plus de chômeurs aujourd'hui qu'il y en avait hier, c'est ça l'idée ou...
Mais d'où tu sors tes chiffres?
Je ne sais pas, tu vas me les dire.
Super. Alors effectivement, non mais tu as raison, selon la NPE, il y a plus de chômeurs et selon l'INSEE, il y en a moins. Effectivement donc alors les médias n'insistent pas trop là-dessus puisque effectivement Macron a décrédibilisé les chiffres de la NPE une bonne fois pour toutes en déclarant qu'il ne commenterait plus les chiffres de l'INSEE, et pour cause, ils lui sont beaucoup plus favorables et ils sont globalement plus favorables au gouvernement. C'est oublier qu'effectivement les chiffres de Pôle emploi posent beaucoup de problèmes du fait en fait des radiations des chômeurs et des réinscriptions. Mais on peut supposer que les gens qui disparaissent qui sont actuellement hein, dans les chiffres de Pôle emploi se retrouvent dans ce qu'on appelle le halo du chômage de l'INSEE, c'est-à-dire tous ces gens qui voudraient travailler mais qui ne cherchent pas de travail au cours des 4 dernières semaines et qui donc disparaissent des statistiques du chômage. Donc effectivement selon l'INSEE, il y a 9,5% de la population active au chômage et il devrait y avoir une légère décrue au dernier trimestre, plutôt au deuxième semestre, puisque leurs chiffres ont 3 mois de retard. Mais ces chiffres posent beaucoup de questions, parce que finalement, on sort peu de l'espèce de plat, en fait, hein, c'est-à-dire que la France crée des emplois, mais ne crée pas assez d'emplois pour absorber le surplus de jeunes qui arrive sur
tous les ans,
le marché du travail, tous les ans. Voilà. Et du fait d'une croissance soi-disant d'une croissance faible. Or la croissance est forte, mais les chiffres restent continuent à stagner. Et donc le secteur marchand, cher à Monsieur Macron, devrait baisser son rythme de création d'emplois au deuxième semestre. Donc on voit que la croissance ne fait pas tout. On a toujours une croissance qui crée pas beaucoup d'emplois. Et puis il y a la fin des emplois aidés. Donc la fin des emplois aidés, pour donner une petite idée, ça représente au moins 100 000 contrats aidés qui n'ont pas été renouvelés en 140 000 contrats, pardon, qui n'ont pas été renouvelés en 2017 par rapport à 2016. Et en 2018, on devrait en avoir encore moins 110 000. Donc ce qui représente un chiffre très très important. Voilà. Et du coup, on se pose une question, finalement, est-ce que les emplois aidés sont si chers ? Et donc, la réponse nous vient de la presse libertaire, de FPP.
Bah, la meilleure presse, alors.
Oui. Pas du tout.
Ah bon, d'accord.
Eh ben non, pas du tout. Elle nous vient, en fait, exactement de France Stratégie, qui est un
d'accord.
organisme gouvernemental attaché au Premier ministre, et puis du comité de suivi et d'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE. Parce que vous vous souvenez que le 1er janvier 2013, monsieur François Hollande a créé le CICE, et donc c'était un allègement conséquent de charges pour les entreprises, à tel point d'ailleurs que certains comptent ça aussi comme des emplois aidés. Or, tenez-vous bien, le CICE a coûté entre sa création et aujourd'hui 62 milliards d'euros pour un résultat qui est selon ces deux organismes gouvernementaux très très mitigé, puisque l'un chiffre la création d'emplois net à 108 000
sur l'ensemble de la période. Hein.
Sur l'ensemble de la période, sur les 4 ans maintenant. 108 000 emplois créés ou préservés. L'autre ne s'avance pas trop et hésite entre une fourchette entre 10 000 et 200 000.
Ah oui, c'est effectivement
c'est-à-dire le flou qui entoure. Pas plus de 200 000 sur 4 ans, vous voyez, c'est pas énorme. Pour un coup, hein, je rappelle, de 60 milliards d'euros. Donc ce qui fait, si on prend la fourchette basse, un coût délirant par emploi. Ça reviendrait, dans le cadre d'une création de 10 000 emploi à 4,7 millions d'euros par emploi ou 235 000 euros par emploi, ce qui est pas mal. À titre de comparaison, les employés aidés coûtent 4,2 milliards d'euros par an et ont embauché jusqu'à 450 000 personnes. Voilà, c'est ça l'orientation libérale de monsieur Macron, mais Christophe nous en dira
plus. Alors peut-être que j'ai une question, j'ai une question à vous poser. C'est cet argent qui a été donné au patron. Où est-il aujourd'hui maintenant, donc, pour le coup ?
Alors justement, c'est une très très bonne question. Effectivement, il semblerait que le CICE ait profité tout de même aux petites entreprises. Alors c'est relatif, c'est entre 10 et 100 personnes, puisque c'était les entreprises qui manquaient de trésorerie. Donc pas forcément dans la création d'emplois, mais ça les aurait permis de survivre. En revanche, les grands groupes ont bénéficié effectivement de sommes très très conséquentes et, pour certains d'entre eux, ont réduit leur masse salariale, voire tout simplement organiser des plans sociaux. Donc, par exemple, on a le groupe Vivarte, qui est propriétaire de la halle aux chaussures, qui a empoché 14 millions de réductions fiscales en 2016, juste en 2016, hein. Mais en 2015, il a supprimé 1250 emplois. En 2017, 451 suppressions d'emplois, donc en plus. De son côté, La Poste touchait 280 millions tout en réduisant sa masse salariale en 2014. Donc voilà. Je rappelle aussi que ce CICE va être pérennisé, c'est-à-dire qu'il va se transformer en allègement de charges définitive les entreprises par M. Macron.
Et ça rentre dans les réformes économiques de Macron, ça, pour le coup. D'ailleurs, tu vas nous en dire deux mots, toi qui as suivi l'affaire de près, Christophe. Les réformes économiques de Macron, ça touche qui alors pour le coup ?
Alors là, on va pas parler des entreprises, mais je voudrais rappeler par rapport à cette histoire de CICE un élément. Il y a eu, il y a quelques années, du temps du gouvernement de Monsieur Hérou, un reportage notamment sur France 2, où même les petites et moyennes entreprises ont dit dès le départ, ce que vous mettez en place, ça va être ce crédit donc d'impôt et compétitivité, ça va être une arnaque, un chantage de la part des grands groupes, parce que nous on va intervenir en tant que sous-traitant, et ça va nous faire rentrer de la trésorerie, donc virtuellement, dans le cadre d'écriture comptable, on va avoir soi-disant plus de fonds de roulement, plus d'argent disponible, mais en réalité, ça va tout simplement enrichir l'actionnaire. Et c'est ce qui s'est passé.
Pour les grands groupes, hein.
Pour les grands groupes.
Écoute ce que je répète, ce que je dis. En fait, les grands groupes ont dit, vous bénéficiez du CICE, en conséquence, vous baissez vos marges et vos prix.
C'est ça.
Ils ont fait ça aux PME, PMI. Tout à fait. Ça a été du chantage.
Je suis d'accord. Absolument.
Absolument. Et ça n'a absolument pas créé d'emploi. Ça, on oublie de dire. Maintenant, on va revenir dans ce beau monde libéral réforme économique, mais individuelle sur le contribuable, hein, sur ce qui pourrait être là d'ici 2022. En ce moment, pourquoi on parle de... C'est un article qui est dans Le Point et puis aussi BFM. Parce qu'en ce moment, il y a un contre-feu qui est un peu allumé dans les médias, de dire oui, M. Macron, c'est un banquier de Rothschild, il va faire un budget pour les riches. Et donc, il y a tout un truc sur le thème de « mais vous inquiétez pas, on va réformer l'impôt sur la fortune et on va créer l'impôt sur la fortune immobilière ou en taxant les yachts, les lingots, etc. » Donc comme ça, sauf que un député PS a fait remarquer que dans le cadre de la réforme de l'impôt sur les grandes fortunes, ça serait quand même un nouveau cadeau à la tranche d'imposition la plus élevée de 3,2 milliards d'euros. Ce qui est quand même pas rien. Mais Monsieur Macron... Son argumentation, c'est « mais moi, je vais vous offrir une forme de 13e mois pour les personnes les plus modestes, parce que, en fait, mécaniquement, votre niveau de vie va s'élever d'à peu près un peu plus d'1% d'ici à 2022, ce qui est pas grand-chose, mais on vous sort des chiffres, hein, ça fera 250 euros en plus et tout. » Alors, les gens vous disent « mais oui, mais ça va faire plus de 250 euros pour quelqu'un qui bénéficie des minima sociaux RSA type, ou allocation du premier enfant, des choses comme ça, c'est important, etc. » Alors vous dites, ben oui, effectivement, c'est juste. Sauf que la réalité est tout autre. C'est-à-dire que, officiellement, quand on regarde les chiffres, 40% des plus pauvres auront quasiment 70%, ainsi que les classes moyennes, avec la taxe d'exonération de taxe d'habitation, vont avoir vraiment toutes les aides. Oui, mais proportionnellement. Ben non. Parce que la réalité, c'est quoi ? C'est que la tranche la plus élevée, ce qu'on appelle en décile dans l'impôt sur le revenu, eh ben elle, elle va peut-être bénéficier, celui qui gagne 56 000 euros, lui, il va gagner, il va encore avoir des allègements. C'est ça le problème. Et, ouais, et ça, on ne dit pas. Donc, sachant que on n'a toujours pas hein, de cotisation liée, c'est un financier, hein, au, à l'impôt qu'on va payer lorsqu'on vend des actions, donc tout ce qui est du domaine de l'argent de la finance. Et de l'argent travaillé. Donc, ce n'est pas forcément des produits financiers, ça peut être des produits d'épargne. Et ça, il n'en parle pas. C'est grand même le grand flou. Toujours est-il que derrière cette politique, on n'a pas vraiment, comparé à ce qu'on donne aux entreprises, individuellement, les plus modestes bah, vont récupérer des miettes. On est vraiment dans cette logique de ruissellement par le haut.
Hein, donc, donner aux plus riches et rien aux plus pauvres, quoi.
Non, non, non.
C'est pas ça le.
Donner un peu aux plus riches. Pour qu'ils continuent à consommer, mais rien pour n'inciter à ce que cette richesse produite redescende par le bas. D'accord. Et soit productive d'emploi.
D'accord. T'as dit donner un peu aux plus riches et donner beaucoup aux plus riches. Ouais.
Oui, proportionnellement, en fait, oui.
Proportionnellement.
Et donner c'est ça. Et on parle toujours de notion d'équité, donc on dit, bah, la proportionnalité, ça n'a pas d'importance. Hein. Si on donne. On est en train de nous faire le discours, si tu veux. Je donne 20 milliards d'euros aux plus modestes. Mais j'en donne que 3,2 milliards aux plus riches. Sauf que les plus riches, c'est une infime proportion de la population.
Oui, et puis je rappellerai voilà. Juste que la suppression de l'ISF, ça représente bah oui, le montant de... Enfin, c'est plus, bien plus que le montant des emplois aidés.
Absolument. Non, mais tout à fait, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on a pu voir, on a pu constater depuis un certain nombre de décennies, puisque que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir, c'est à peu près la même chose, c'est le monde libéral hein, depuis longtemps, depuis les années 80, on va dire, pour le coup. La casse des administrations, la santé, l'école, etc. Mais là, l'ancienne ACEDIC l'UNEDIC, je veux dire, est en train de se réformer, Ludo. Et apparemment, il y avait grève ces derniers jours. Je crois que c'est la grève continue aujourd'hui. Grève des gens qui travaillent à l'UNEDIC, hein, parce que justement, la réforme irait pas dans le bon sens à leur dire. Hein. Donc, qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, ça fait partie des promesses de M. Macron pendant la campagne. Hein, et donc, on comprend qu'ils sont en grève parce qu'ils craignent, pour une partie d'entre eux, hein, je parle pas des gens qui s'occupent des demandeurs d'emploi, parce que ils sont malheureusement, vu le taux de chômage, ils seront toujours là, mais bien des gens, disons, de l'échelon supérieur. Hein, il faut rappeler que l'UNEDIC est un organisme paritaire, absolument. Donc plus ou moins indépendant, et en tout cas qui est co-géré par le syndicat patronal et les syndicats patronaux et les syndicats de salariés. Or, effectivement, M. Macron voulait réformer l'UNEDIC pour étendre le régime d'indemnisation aux démissionnaires ou aux indépendants. Donc, noble et généreuse réforme, hein, pour une fois. Le seul problème, donc, et pour ceci, il lui faut donc rentrer dans l'UNEDIC, en tant qu'État, c'est-à-dire passer d'une gestion paritaire à une gestion tripartite, ce qui correspond plus ou moins à une forme d'étatisation qui ne dit pas son nom, l'État faisant l'arbitre, en fait, des négociations, enfin, de la gestion de l'UNEDIC.
Je précise aussi un élément qui n'est pas anodin, c'est que si l'État devient un des acteurs majeurs de l'UNEDIC qui est basé sur l'indépendance, ça veut dire que l'État met aussi son nez dans les comptes sociaux des différents représentants syndicats et des modes de financement du syndicalisme en France.
Alors il y a du pour et du contre, hein, c'est-à-dire qu'il met effectivement son compte, par exemple, pour régler les histoires de formation professionnelle. Pour être aussi
nous bon. En parlons tout
mais
à l'heure,
c'est oui. Pas le l'objectif principal, c'est aussi pour régler l'histoire du déficit et effectivement donc le déficit est conséquent quand même donc il se pose un petit souci, c'est que effectivement jusqu'à maintenant, je rappelle que le principe de l'UNEDIC, c'est l'assurance, hein, c'est-à-dire qu'en fait vous cotisez tous quand vous travaillez pour toucher vos indemnités de chômage quand vous vous retrouvez au chômage. Et M. Macron souhaite le remplacer par un principe de solidarité. C'est-à-dire solidarité qui est, sur le modèle du RMI, aujourd'hui, ou du RSA aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement, c'est l'État qui viendrait indemniser les chômeurs. C'était en tout cas sa proposition pendant la campagne. Donc, La crainte de l'UNEDIC, c'est que l'indemnisation de remplacement ne soit plus connectée aux revenus. C'est-à-dire que, pour le dire très simplement, puisque malheureusement on est à ressources constantes, au fond, et qu'il faut indemniser plus de gens, eh bien l'indemnisation sera tirée vers le bas pour tout le monde. Voilà. Donc ça pose aussi un petit problème, c'est qu'en fait on veut l'étendre aux indépendants, mais on ne sait pas lesquels. Or, parmi les indépendants, il faut compter des chefs d'entreprise qui cotisent à une assurance volontaire contre le chômage, et puis des artisans ou des boulangers qui sont pas forcément demandeurs en fait de ce type de mesures. Donc la question sera de savoir, en dehors du fait effectivement quelles seront les conséquences sur le paritarisme, puisqu'on sait bien qu'en fait le paritarisme ne fonctionne pas très bien, puisqu'en définitive c'est l'État qui impose un accord, souvent un accord entre les syndicats et le patronat. Et en dehors effectivement des éventuelles conséquences sur le financement des organisations syndicales, puisque les organisations syndicales tirent aussi leurs revenus en partie de l'UNEDIC, ce qui seront quand même des conséquences majeures. En dehors de ça, c'est l'indemnisation des chômeurs qui pourrait encore pâtir de cette réforme, c'est-à-dire être vu à la baisse.
Est-ce que ça sous-entend que si ce n'est pas associé aux anciens salaires, ça veut dire qu'ils vont mettre en place une sorte d'escalier avec des plafonds, des paliers?
On n'en sait rien pour le moment. On n'en sait rien du tout. Mais il y a fort à parier que, vu l'état des comptes, qui sont l'état déficitaire des comptes, mais qui sont pris en compte dans le déficit de l'État. Par exemple, quand le gouvernement va à la Commission européenne, il prend en compte les déficits des organismes sociaux, parce que c'est souvent lui qui comble le trou, même si l'UNEDIC emprunte, on peut supposer qu'effectivement, il vient aussi pour mettre de l'ordre dans les comptes, et donc pour réduire les prestations. Sachant qu'il faut préciser que Pôle emploi et l'UNEDIC coûtent aussi très très cher, et que sans toute l'administration autour de l'emploi, les comptes de l'UNEDIC ne seraient pas déficitaires.
Merci Ludo. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet?
Oui, ce qui est la stratégie d'Emmanuel Macron et de son gouvernement dans cette histoire est quand même une stratégie redoutable. Parce que en fait, il va réinstaurer une forme de guerre des classes, c'est-à-dire qu'il va mettre de front personnes salariées, autant entreprises étant son propre patron, contre ces feignants de chômeurs, pour récupérer une certaine manne, alors que ces patrons créent de la richesse et devraient, du fait de leur richesse, être solidaires entre eux. Ce qui amènerait, par exemple, une taxe de solidarité de l'entrepreneuriat, par exemple. Une TSE, qui permettrait de financer l'UNEDIC. C'est un exemple. D'accord. Mais non, il va créer ça pour qu'il y ait un moins-disant social. On voit bien la logique. C'est très fin. Politiquement, c'est dangereux, mais c'est subtil et c'est redoutable même.
Très bien, merci Christophe. La guerre des classes continue, on va écouter une petite chanson et ensuite on reprend la parole. Merci.
Le temps de finir la bouteille, j'aurai rallumé un soleil. Le temps de tuer la bouteille, le temps de tuer la bouteille.
Et oui, c'était Alain Leprest, un chanteur engagé, une merveilleuse chanson, faut le dire quand même. Donc on reprend cette émission, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi. Ce soir vous êtes avec Ludo, Christophe et Gilles au micro, bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
J'ai dit ça pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne. Et bien sûr, Claude à la technique, on reprend cette émission, on va parler un petit peu de ce qui nous fâche ou même de ce qui nous amuse aujourd'hui. Les routiers ont bloqué pas mal le pays ces derniers temps. On se demandait un petit peu pourquoi, Christophe.
Disons que c'est à cause des ordonnances Macron, puisque l'inversion de la hiérarchie des normes qui permet à une boîte de négocier son propre accord sur les temps de repos, sur la rémunération de base, sur les congés, ça dérange un peu des gens qui font des horaires extensibles. Par exemple, les routiers qui se sentent d'un seul coup en version plombier polonais, du genre si tu passes en Espagne, t'auras 2 heures en moins de repos. Voilà. Parce que c'est un exemple humoristique, mais si tu veux. Donc, il y en a eu ras de gasoil. Donc, la conséquence de ça, c'est que les routiers se sont mis en grève, et évidemment, logique du rapport de force, d'un seul coup, Et même, parce que le problème, c'est que des routiers qui bloquent, ça fout le bordel au niveau de l'économie, quoi. Donc, il y a eu un accord bénéfique pour les salariés qui empêche le dumping social, puisque l'inversion des normes, c'est-à-dire payer moins dans un autre pays, etc., etc., ça, en fait, c'est pour mettre les salariés les uns contre les autres, pour qu'ils aient le moins possible de salaire et d'avantages sociaux, hein, que ça soit des tickets repas, des congés bonifiés, enfin, tout ce qui fait la base de la protection sociale et plus. Et ben voilà, les routiers ont négocié un 13e mois. Et évidemment, ce nouvel accord de branche, a pleinement satisfait tout le monde. Sauf que, ça satisfait, on l'a qualifié d'historique par la CFTC. Certains voudraient peut-être qu'on n'aboutisse pas, avait dit Patrice Clot de Force ouvrière, etc., etc. Sauf que, le texte, il est en lui-même, pour le moins, illégal, hein, puisqu'on invente une espèce de 13e mois pour les routiers, sans préciser. Sauf que par rapport aux ordonnances, ça fait une contradiction. Donc on se dit que c'est peut-être une brèche ouverte à un début de vraie négociation par rapport à cette tournure libérale. Bon, ça on le verra dans les semaines, les rapports de force qui évolueront.
Je veux dire, comme par hasard, hein, c'est ça la construction du rapport de force syndicale, c'est quand une corporation a la capacité de bloquer, éventuellement de bloquer le pays, tout de suite on négocie, et on comprend pleinement leur angoisse, puisque, comme le disait Christophe, si demain votre patron négocie le fait que vous ne puissiez pas faire d'heures supplémentaires, par exemple, ou de vous payer moins des heures supplémentaires, le routier est un métier vraiment extrêmement difficile,
très dur,
et qui n'est pas forcément bien rémunéré, et qui supporte en plus la concurrence des routiers internationaux.
Absolument. Eux, ils connaissent la mondialisation, c'est clair.
Très bien. Alors, on va. On va passer à un autre sujet. J'ai la gorge qui gratte. On va passer à un autre sujet. On va parler un petit peu. Apparemment, il y aurait 15 milliards pour la formation professionnelle dans les 4 ans qui viennent, pour former à peu près 2 millions de chômeurs.
C'est une grande annonce du plan d'investissement d'Emmanuel Macron. Parce que le chef de l'État veut que les branches professionnelles jouent un rôle clé, etc. Et on nous parle, arrêtons avec le défaitisme français, patati et patata. La solution, c'est l'apprentissage, etc. Le fait que les branches professionnelles soient plus impliquées et tout. Sauf que moi, je ferai 3 remarques par rapport à ce sujet-là. Premièrement, ça fait 30 ans qu'on nous bassine que la solution à l'insertion des jeunes par l'emploi, c'est l'apprentissage. On n'a pas d'études de fond sur 10 ans du taux d'emploi à temps complet sur cette fameuse filière de l'apprentissage de métier. J'aimerais bien le voir, moi.
Si je peux me permettre, hein, Christophe.
Oui, vas-y, permets-toi.
L'intérêt de l'apprentissage, il est double, semble-t-il. Hein, c'est que, c'est vrai qu'il y a eu on a délaissé certains métiers manuels. Et donc on s'aperçoit finalement il y a un manque dans ce secteur, et de l'apprentissage a été étendu aux études supérieures, et y compris à des professions comme, je sais pas, agent immobilier ou des professions scientifiques et techniques. Et du coup, comme les entreprises ne forment plus, ces gens sont très très appréciés, parce qu'effectivement, ils sont sous-payés dans leur première année d'apprentissage. Par contre, quand ils débarquent sur le marché du travail, ils sont très très efficaces.
Voilà. Donc, il y a une réalité, hein, c'est que seuls 7% des jeunes sont en apprentissage en France. Alors, je sais pas d'où on sort ce chiffre. J'aimerais bien qu'on le vérifie.
Parce que le contrat d'apprentissage est un contrat, et donc
tu
peux le compter, puisque c'est un contrat de travail et puis qu'il est enregistré comme tel, et donc il rentre parfaitement dans les statistiques.
Tout à fait. Et qu'il y aurait un taux d'apprentissage de 15 voire 20% dans les autres pays, ce qui serait une clé et un véritable sas pour briser le mur du chômage.
Alors peut-être, mais en tout cas, c'est parce que c'est des pays comme l'Allemagne qui ont fait le choix d'orienter les gens dès le départ vers l'apprentissage, et donc effectivement, et qui sont donc beaucoup plus sélectifs quant à leur accès à leur étude supérieure. Donc c'est un modèle qui n'a pas forcément que des avantages aussi.
Oui, sauf qu'il y a un petit problème, puisque figure-toi que récemment, il y a un article sur France Info, hein, mais qui est dédié et spécialisé dans le domaine de l'économie, qui reprend un certain nombre d'éléments de l'État, d'éléments de langage, notamment de la Cour des comptes. Et que dit la Cour des comptes ? Eh bien, la formation professionnelle, c'est formidable, sauf que les centres de formation, c'est tout simplement les dérives d'un système très coûteux. Et devine ce que coûte la formation professionnelle et la formation en France, en termes de milliards d'euros, parce que c'est quand même assez conséquent. C'est 32 milliards d'euros par an. C'est une fortune. C'est une fortune. Donc, effectivement...
Sous-utilisé. Hein,
sous-utilisé, c'est-à-dire que les entreprises... L'État, les régions, tout le monde met la main à la poche, là. Soyons clairs. Hein.
Et tout le monde se sert aussi.
Les salariés aussi, hein, puisqu'il y a une, dans votre feuille de paye, il y a une taxe pour l'apprentissage. Hein.
Absolument.
Vous payez vous aussi. Hein. Sauf que la réalité, c'est quoi ? C'est que... Alors ça, c'est extraordinaire, comme quoi le slogan « la formation, c'est la solution, c'est du bidon ». Parce que devinez quoi ? Bah, des formations professionnelles pour devenir menuisier, boulanger ou encore égouttier. Bah, chaque année, il y a 17 millions de personnes qui suivent une formation professionnelle. C'est énorme. C'est énorme. C'est, je veux dire, c'est en gros, tous les 3 ans, on suit tous une formation par rapport au nombre d'actifs. Sauf que, alors tu dis, mais sauf que voilà, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a seulement 1% des centres qui sont inspectés sur leur cahier des charges tous les ans. C'est hallucinant, quoi. Donc, alors, c'est un business. Alors, c'est...
Attention, mais dans la formation, il faut aussi être capable de distinguer, comme tu dis, c'est un business. Je veux dire, la formation, entre guillemets, professionnelle, donc de l'apprentissage, par exemple, et les formations qui sont sous-traitées ou par la NPE ou qui sont financées par le conseil régional. Et qui sont des formations qui sont courtes et pas forcément qualifiantes.
Voilà. Ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous apprendre un module, le compte rendu de réunion, comme si vous en avez besoin. C'est une formation professionnelle, alors que vous en avez pas besoin. Ça dure 2 jours, mais on vous compte comme une formation professionnelle. C'est absolument.
Alors, juste, c'est un marché.
C'est un vrai marché.
Oui. Juste rappeler quand même que la formation professionnelle, c'est comme la retraite. Hein, c'est des choses qui sont légales et obligatoires. Donc, puisque dans le cas des entreprises petites, moyennes ou grandes. C'est 0,8% de la masse salariale qui est consacrée à la formation professionnelle.
Oui.
Et dans ces formations professionnelles, là, le CIF, le CFI, etc.
Tout à fait.
Et donc, normalement, les employeurs sont censés accepter à chaque fois qu'un salarié le demande, une formation.
Tout à fait. Au bout d'un an. Ils ont le droit d'être
Et bien sûr, quand tu travailles à temps complet ou même à mi-temps, tu analyses ce qu'on appelle le compte individuel de formation, le CIF.
Tout à fait.
Où tu as des heures pour te former et faire ce que tu veux.
Maintenant, il y a une deuxième piste de réflexion à avoir, c'est qu'effectivement, tu as raison, les conseils régionaux ont aussi une manne importante pour les formations professionnelles.
Ah bah oui, c'est eux qui.
Les plateformes de formation d'insertion, par exemple, dans les régions les plus difficiles de la banlieue rouge, on va dire, Pantin, Clichy et Saint-Ouen, où il y a des formations comme ça qui, donc, les jeunes qui sortent du scolaire, le système scolaire.
Oui, c'est le système Greta.
Voilà, c'est un peu le système Greta. Ils vont de formation en formation pour apprendre des métiers différents. Mais là, pour le coup, c'est souvent des formations parking où on dépense beaucoup d'argent pour une formation qui n'est pas automatiquement ni diplômante ni qualifiante.
Oui. Et puis c'est un business.
C'est un business
parce que des directeurs de formation, d'organismes de formation gagnent très bien leur vie comme ça.
Absolument.
Non, mais il y a des gens qui s'enrichissent et qui ont un bon niveau de vie, il faut le dire. Hein. Puisque je poursuis mon article. Mais ça serait bien d'ailleurs qu'un jour, les inspecteurs du travail et puis une commission des inspecteurs du travail et puis de la direction régionale de la répression des fraudes mettent le nez dedans. C'est pas la première fois que les cours des comptes disent ça serait peut-être bien qu'on soulève un peu le couvercle. Je suis assez pour parce que dans certains ateliers, par exemple, de formation très demandée comme soudeur, hein, on se retrouve avec des subventions de travaux de 150 000 euros et puis du matériel neuf. Sauf que c'est alors un atelier modèle, une filière qui recrute, sauf que alors, le directeur de formation vous dit que Pôle emploi n'a envoyé que la moitié des candidats, que sur la ligne d'émargement, il y a des gens qui émargent, mais qui sont pas là, qu'il y aurait une surfacturation des stages, une majoration des nombres d'heures. Bref, c'est un beau foutoir de l'agent public, et il serait peut-être grand temps qu'on fasse un peu le ménage, parce que là, il y a du boulot, là.
Ça m'étonne.
Et je voulais rappeler que les centres de formation, lorsqu'on sous-traite des recherches d'emploi à des centres de formation, parce qu'aujourd'hui c'est ça, ça coûte beaucoup plus cher pour une efficacité, c'est-à-dire en langage technique, un taux de retour à l'emploi qui est pas plus élevé.
Merci.
Sauf qu'il y a de l'argent qui est parti entre-temps dans les limbes.
Merci à tous les deux. On va écouter une petite chanson, ensuite on reprendra la parole. Merci.
Tu veux que je...
Pignoniera, c'est bon Dieu.
Alors, juste un petit mot quand même pour présenter ce groupe que vous venez d'entendre à l'instant. C'est Inti Illimani, donc c'est un groupe chilien révolutionnaire, hein, de, voilà, qui a fait toutes ses chansons en Italie parce qu'ils ont été poursuivis par la police de leur pays. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur que je voulais mettre dans cette émission. J'adore ce groupe et j'espère que vous l'avez apprécié aussi. Donc on reprend cette émission, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM avec le super Claude à la technique et nos super animateurs Claude et Christophe au micro, ainsi que Gilles.
Où est passé donc Ludovic?
Bonsoir.
Bonsoir, excuse-moi du coup. Okay. On reprend cette émission et on va parler un petit peu des prochains emplois du 21e siècle, Christophe. Qu'en est-il exactement du 21e siècle?
Alors, on n'invente rien, c'est suite à l'émission d'Élise Jusset sur Cache Investigation et puis les méthodes de Lidl et de Monsieur Free, c'est-à-dire Monsieur Xavier Niel. Puisqu'il y a un article de Mediapart sur les nouveaux emplois du 20e siècle, du 21e siècle, le call center. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, bon, c'est pas nouveau, hein, mais ça fait du bien de le rappeler, parce que on pense toujours à l'ouvrier qui est en usine, qui trime comme un malade, en train le tourneur fraiseur qui fait des pièces et tout, qui est crevé physiquement, ou le maçon et tout, mais il y a aussi une espèce de stress et de fatigue psychologique qui peut carrément laminer, qui est le rendement et la cadence de la tâche répétitive, mais avec l'humain. Et donc, c'est les années qui le disaient, hein, salariés dans les centres d'appel, ce sont les ouvriers du 21e siècle, c'est un métier horrible. Le seul qu'ils font, c'est le pire des jobs. Et voilà, donc il y a eu, ces derniers temps, 27 septembre, une émission de Cache Investigation sur ce monde merveilleux. Alors, le nouvel Eldorado, donc quand on n'a plus rien, en fait, le nouveau Trent, hein, en anglais, quand on n'a plus rien pour les chômeurs, et notamment d'Europe, et puis qui sont un peu diplômés, c'est le call center. C'est le call center.
C'est dans, on va centre dans, d'appel en français.
Centre d'appel. Où
plateforme téléphonique. Oui.
Voilà, où il y a des salaires moins élevés, comme au Portugal, en Irlande, la Roumanie. Alors, il faut savoir que l'Union européenne et aussi l'État français, notamment lors de la politique de Nicolas Sarkozy, ça date pas d'hier, hein, on a favorisé pour re-industrialiser des bassins d'emploi, notamment miniers, dans l'Est et tout, ou quand il y avait des grandes catastrophes à industriels, comme par exemple la fermeture, c'est un exemple, hein, de Mouninex, 5000 emplois ouvriers en moins et techniciens, ingénieurs, sur un bassin d'un demi-million d'emplois, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un call center. Voilà. Donc, il y a eu des aides de l'État alors pourquoi? Parce que, très souvent, les gens qui font ça et qui n'ont plus rien, c'est parce qu'ils n'ont pas de réseau, ils ont fait des études supérieures. Les États donnent des subventions aux grandes boîtes qui s'enrichissent comme ça. Hein. C'est-à-dire que Niel n'est pas... Et puis donc, ça fait quoi? Ça fait le bonheur de certains grands géants de la sous-traitance là-dedans, comme... On va vous donner des noms, mais ça vous dit rien, comme Concentris ou Capita, ou des entreprises du net, comme par exemple Free, hein, Free ou d'autres. Donc en fait, vous savez ce qu'il y a comme type de travail dans ces call centers, à votre avis, comme type de métier? Vous êtes donc avec votre manette, votre casque à longueur de journée, votre petite oreillette.
T'as un superviseur pour voir si les gens appellent bien au téléphone. Et t'as celui qui appelle.
Alors, je te parle en termes de famille de métier. Alors voilà.
Excuse-moi.
Alors, d'abord, la première famille de métier dans le call center, c'est ce qu'on appelle inbound en anglais. C'est la relation client, le SAV, quoi. Donc ça encore.
Service après-vente.
Service après-vente. C'est moins pire parce que en fait le client il cherche quelque chose, faut être patient, il y a un peu de pédagogie, et puis tu rends service à la personne, comment on met une disquette, comment on met un CD, enfin je pense notamment à l'informatique. Mais le pire, c'est le truc qui est en dehors, c'est la vente démarrage. C'est-à-dire tous les gens qui tous les jours sur votre portable vous appellent pour vous vendre des abonnements Canal+, pour vous vendre parce que en fait ils vous dérangent dans votre vie privée ou vie professionnelle, ils vous demandent rien, et ils se font insulter, agresser à longueur de journée, et ils doivent être le plus stoïque possible. Imaginez, et c'est normal qu'au bout d'un moment vous les envoyez pète, parce que quand vous prenez en tant que client potentiel 10 appels par jour pour qu'on vous vende des savonnettes, moi j'ai déjà eu ça, des assiettes de porcelaine de Limoges,
des crédits.
À la fin, le pauvre gars qui est derrière son oreillette, au bout du 7e ou 8e appel, vous l'envoyez pète, quoi.
C'est clair.
Sauf que le mec, il se prend ça à longueur de journée.
T'as oublié les rappels pour les mutuelles, hein, les mutuelles qui rachètent les mutuelles et les mutuelles qui rachètent les mutuelles.
Et alors, devinez comment c'est managé, c'est-à-dire que les gens, les, donc ceux qui sont dans les centres de relations claires, ils ont ce qu'on appelle des templates, c'est-à-dire des modèles de lettres ou des modèles de réponses par rapport aux situations conflictuelles ou ce qu'ils ont dans l'argumentaire. Donc tu sens tout de suite que l'argumentaire, c'est un fond de roulement. C'est de... Et tu l'entends parce que tu n'as même pas le temps de réfléchir. En fait, c'est pour préférer l'acte compulsif. Mais c'est monstrueux. C'est...
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un texte à lire. Hein.
Absolument.
C'est bien rodé.
Ah, c'est totalement rodé. Et c'est pareil aussi pour tout ce qui est, par exemple, méthode de sondage. Ça, on l'oublie souvent, mais ça fait partie des missions des call centers, les sondages. Donc, ce qui est intéressant, c'est que derrière, tu as les managers d'équipe avec, donc, toi, ce que tu appelles les superviseurs, avec ce qu'on appelle les maillons faibles.
Oui.
Donc, le maillon faible est déterminé tous les jours. Oui. C'est la sanction.
Donc, c'est vrai,
enfants.
C'est-à-dire qu'il y a des gars qui sautent tous les jours parce qu'il...
Je peux apporter un élément supplémentaire. C'est que un de mes premiers boulots quand j'étais au collège, au lycée, je ne sais plus, a été pendant les vacances. Pendant 15 jours, j'ai fait ce boulot, moi. J'étais dans un truc qui s'appelait, la société s'appelait Appel. Et j'avais un texte à lire et j'appelais les gens du bottin pour leur proposer une connerie. J'ai dit le maillon faible parce que je suis parti au bout de 15 jours.
Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, tu rigoles. Mais alors, il y a une autre conséquence de ces conditions d'usine de la relation client. C'est tout ce qui est préparateur de commandes et tous ceux qui sont dans les stocks. Parce que la ménagère de moins de 50 ans qui veut sa robe de telle marque et tel jour, elle va pas attendre, elle. Donc, vous imaginez des cadences infernales par rapport aux opérateurs avec leurs caddies qui vont vous chercher des articles. Parce qu'il y a des robots, c'est dans des hangars derrière. C'est monstrueux. Ça a des conséquences.
C'est-à-dire que c'est une intensification des cadences de travail pour les, voilà, pour les manutentionnaires, en fait.
Absolument. Donc,
non, mais s'il n'y avait pas de la maltraitance au travail, je trouverais que pour moi, ce serait un gag, ce genre de choses, les plateformes téléphoniques. Parce que quand tu appelles pour avoir un renseignement, t'es dans le 18e, t'appelles, et en fait, les mecs, ils sont à Tambouctou, quoi.
Ouais. Alors, attends.
C'est le 22 Chanière de...
Je précise une chose par rapport à ça. Effectivement, du fait des conditions salariales plus élevées et des droits sociaux plus importants dans les pays développés, on va dire comme ça, hein, donc en Europe, à un moment, t'avais Tombouctou, t'avais Casablanca, t'avais tous les pays du Maghreb qui prenaient, avec des gens qui étaient quand même licence, master, doctorat, enfin bref, diplômés. Sauf que l'accent s'entendait quand même. Donc, ils se sont rendus compte que pour leur réputation et pour leur image, donc on a recentré dans des pays comme l'Irlande, l'Angleterre et tout. Et donc, t'as toute une partie de la jeunesse. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une vague de suicides, notamment en Irlande, qui est assez conséquente. Et que comme par hasard, et c'est là où j'en terminerai, sur ce qui est lié à la souffrance du travail, il n'y a actuellement aucune étude scientifique qui élabore le lien entre souffrance du travail et taux de suicide qui est 3 à 4 fois plus élevé dans les call centers.
Bien sûr.
Que dans un autre environnement professionnel.
Il faut dire.
C'est bizarre, mais les scientifiques et un regard de recul, on n'en veut pas.
Mais il y a eu quand même des recherches qui ont été faites par des sociologues, j'imagine, enfin, je ne les ai pas sous les yeux, mais voilà. Tout a déjà été étudié.
Non, mais je veux dire, ces derniers temps, il y a quand même une intensification, semble-t-il.
Exactement.
Avec Orange. De ce type, ouais.
Voilà, avec. Et puis une
dématérialisation. Et puis Free aussi. Free était en grève aussi il n'y a pas longtemps.
Et puis une dématérialisation
tout
aussi.
Tout à fait.
Hein. Ouais. Et puis je crois aussi que c'est la robotisation de. C'est ce que montrait le reportage, hein, ouais. De l'activité
et de la relation humaine.
De la relation humaine, y compris dans les entreprises qui ne sont pas forcément liées tout de suite au call center, en fait.
Tout à fait. Ouais. Ah, non, mais c'est
un monnaie de déshumanisation au profit de la notion d'économie marchande.
Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est les conditions de travail des salariés dans ces entreprises. C'est l'esclavagisme le plus criant qui soit, quoi.
C'est temps moderne.
Mais chômeur, c'est une bonne situation.
Non, mais on peut comprendre. On peut comprendre qu'une personne qui fait un mois d'essai dans des cadences infernales, par exemple, tu prends la période de Noël. Évidemment, ils vont prendre des saisonniers à la période de Noël ou à la période des vacances. Parce que les gens vont consommer des produits spécifiques. Imagine, au bout d'un mois d'essai, tu t'en as ras-le-bol. Bah, je préfère être au chaud nu que avoir envie de me tirer une balle dans la tête. Enfin, il y a toute une réflexion. Le dialogue social, ne serait-ce que commencer par ça, quand on voit le reportage de Cache Investigation. Le dialogue social dans ces grands groupes,
c'est hallucinant.
Oui, qui n'existe pas et dont ils ne veulent pas entendre parler, bien sûr.
Très bien. Donc, le mot de la fin, c'est soyons feignants et soyons en fiers. C'est ça, non? Pour reprendre le mot de Monsieur Macron. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Merci à Ludo et à Christophe d'avoir fait cette émission avec moi. Merci à Claude pour la technique. Cette émission se termine la semaine prochaine. C'est Attaque, je crois.
C'est Attaque.
Je vous dis donc dans un mois. Merci, bisous aux filles et poignées de main aux garçons. Ciao.
Allez, bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir.